5e numéro du podcast. On est de retour dans mon appartement avec quelqu'un dont la vie personnelle est aussi intéressante que la vie professionnelle. C'est assez diversifié. C'est quelqu'un que je connais bien et avec qui j'ai eu la chance de jouer à quelques reprises. James Dino est là. Salut, monsieur Dino.
Bonjour tout le monde. Ou bonsoir, c'est selon, évidemment.
Oui, parce que podcast, quand tu veux, ça, c'est pas...
Le matin ou le soir.
Ouais.
Le midi, la nuit.
Oui. Aussi. Et ça me fait plaisir de te recevoir pour... la première raison pour laquelle je suis content de te recevoir, c'est que je me souviens, j'étais déjà interviewé à l'époque, j'étais sur Énergie. Ton single, donc Les Blancs ne savent pas danser, était sorti, ça cartonnait. Et on disait, putain, c'est un mec qui a l'air d'être assez drôle, qui a l'air d'être hyper extroverti. Tu débarques à la radio, on cause en antenne, on s'amuse super bien. Et à partir du moment où les micros ont été allumés, pouf, c'était terminé, t'étais hyper mal à l'aise, t'étais un peu loin du micro. Et je me suis dit, putain, où est-ce qu'il est passé, le pays? Alors qu'aujourd'hui, t'es sur Vivacité, tu fais des chroniques, t'es habitué. Donc t'as dû combattre cette espèce de timidité au micro. C'est quoi, c'est de la timidité ou c'est juste que ça te faisait chier d'aller chez Énergie?
Non, c'est de la timidité, c'était nouveau pour moi aussi. Bon, j'avais déjà fait quand même quelques interviews et tout, mais ouais, c'est un peu le sentiment de dire, allez, maintenant c'est bon, sois bon, hein, tu vois. En plus, j'avais toujours un manager avec moi que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais j'avais toujours ce sentiment, si tu veux, d'être espionné, d'avoir un type avec un petit carnet derrière qui dit, vas-y, parle.
Sois drôle maintenant,
pas,
ouais.
J'étais pas, en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice et je pense pas l'être toujours d'ailleurs.
Alors que tu gagnes ta vie avec ça un peu maintenant, ouais.
Ouais, mais bon, tu vois, le fait de préparer un papier, le fait de faire un sketch ou le fait de préparer quelque chose, c'est différent, tu vois. C'est comme quand toi, tu écrivais ton papier le matin, tu arrivais, ben voilà, que ça marche ou que ça marche pas, t'as quand même écrit quelque chose, t'essayes de le vendre, tu vois. Mais après, déjà aussi, se vendre soi-même, c'est compliqué sur un projet artistique. Et puis, voilà, j'avais peut-être pas préparé ça non plus. Mais c'est vrai que je suis toujours un garçon introverti dans la vie de tous les jours, ça, c'est sûr et certain.
Ben écoute, ça promet pour la prochaine heure, on va voir ce que ça. On va voir ce que ça donne. Et donc, accepter, t'as pas eu de mal à accepter? Tu m'as dit directement oui. Pourquoi t'as accepté?
Non, parce que ça me fait plaisir de parler, d'avoir une petite discussion comme ça, c'est sympa. Et puis, c'est vrai que moi, ça me plaît d'avoir parfois la vision de certains artistes, de leur vision, de leur art. Je trouve d'ailleurs que les artistes donnent pas assez de ficelle aux autres. Enfin, parler des humoristes. Moi, j'adore regarder les DVD de Bigard parce que souvent, il y a un CD bonus dans lequel il refait tout son spectacle. En fait, il regarde, si tu veux, son spectacle.
Ah oui, comment
le spectacle qu'il y a sur le DVD, et il commente tout de A à Z. Il t'explique où il a trouvé les fins, qui a écrit quoi. Il te donne des ficelles sans s'en rendre compte. Tu vois, il commente le bazar et c'est ultra intéressant pour nous. Et donc, c'est chouette. Bon, c'est pas uniquement pour ça que je l'ai fait, mais je me dis, c'est toujours sympa de taper la causette. C'est thérapeutique aussi.
C'est pas mal aussi ce qu'il a fait. C'est comme un réal qui fait la piste des commentaires sur un DVD. Quoi. Il a fait la même chose, mais avec de l'humour.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est con, c'est cool. Je savais pas.
Ouais, je trouve que c'est chouette pour les jeunes, évidemment, à mon avis, comme un des mortels s'en fout, mais quand même, pour nous, c'est sympa, quoi.
J'espère qu'il s'en fout pas trop quand même.
Tout le monde devrait le faire. C'est ce que je reproche un peu à Dieudonné, parce que là, pour le coup, il le fait pas souvent. Alors que c'est un gars qui est passionnant pour sa manière de travailler, c'est une machine. On discutait hier des spectacles qu'en France tu peux tenir 7 ans avec un spectacle. Lui, tous les ans, il y a tous les mois de juin d'ailleurs, c'est tous les mois de juin, il y a un nouveau spectacle et ça marche, quoi. Je veux dire, le gars, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Bon, après, on aime, on n'aime pas, ça c'est chacun ses goûts, mais je veux dire, le gars, c'est une machine, un peu comme Pirette aussi. Moi, Pirette, j'ai autant de respect pour lui parce que lui, il va faire son heure et demie de spectacle sur RTL qui va se faire un score monumental. Des fois, le samedi, la semaine d'avant, il a rien, le type, tu vois.
Oui, il paraîtrait ça. Ou alors, mais toi, t'as travaillé avec lui à l'époque du Belge Comedy Show.
Et c'était passionnant. Et alors, ou alors le gars, il a son spectacle le samedi d'avant. Et puis il y a un truc qui se passe dans l'actu. Oh non, finalement, celui-là, je vais jeter. Tu vois, il jette son spectacle et leur fait un autre, quoi, tu vois.
Ah oui, donc toi, t'as vu ça en live quasiment.
Ouais, nous, il nous l'a dit, tu vois. Il nous a donné des ficelles. C'était ultra sympa. Bon, on était demandeurs aussi, mais il nous a invités plusieurs fois à bouffer. C'est pour ça que les autres sont un peu en colère contre lui. Parce que, bon, parce qu'il a son petit personnage et parce qu'il a voulu faire son business comme il l'entendait. C'est-à-dire qu'il a pas vraiment laissé de grande liberté aux artistes. Il avait une idée en tête. Mais ça n'empêche pas que le type a été sympa avec nous. Bon, il nous a réglé et il nous a invité à bouffer plusieurs fois. Et sur ces moments-là, ben, on a discuté. Il nous a donné des ficelles. C'était ultra intéressant et il est passionnant pour ça, quoi. C'est-à-dire, c'est une machine, le gars. C'est un monstre, quoi, tu vois.
Et toi, t'en as gardé donc un souvenir positif du Belge Comedy Show?
Ben, bon, déjà, j'apparaissais pas beaucoup dedans, tu vois. Donc ça va, j'ai pas non plus perdu ma culotte. Mais bon, il y a des choses que je referais pas aujourd'hui, ça c'est certain. Notamment ces chansons de merde qui nous faisaient faisait fait faire à la fin. Il nous fait faire toujours une espèce de parodie en chanson dégueulasse. C'est toujours moi qui devais m'y coller parce que comme j'étais chanteur. Et donc ça m'a un peu saoulé, mais je veux dire, il a été cool avec moi. Moi, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Il m'a jamais mal parlé. Il a toujours été très sympa. Donc moi, j'en retire une bonne expérience. Voilà, lui, ce qu'il nous a appris, par exemple, il nous a dit, enfin moi, il m'a dit à moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, d'arrêter d'écrire du ligne par ligne, tu vois, parce que moi je venais du rap et j'écrivais vraiment les phrases, tu vois, limite avec les pieds, tu vois, c'était vraiment du texte par cœur, quoi.
Ok. Et quand tu à la virgule
faire,
près.
À la virgule près, et quand tu dois faire du texte comme ça pendant une heure, premièrement, c'est pas possible parce que t'as une pression pour la mémoire énorme. Et puis deuxièmement, il suffit que t'oublies une phrase et tout part en couille. Donc,
et t'es perdu.
Disait, lui, il nous disait arrêtez d'écrire. Déjà, il nous disait écrivez à la main, arrêtez d'écrire à l'ordinateur, ça c'est déjà une chose. Et il nous disait marquez des tirets, des traits d'union, tu vois, c'est-à-dire tu marques des tirets, voilà, l'idée Jacqueline, okay. Telle idée, tu vois ce que je veux dire, tu notes la prémisse, la chute,
où tu veux aller avec,
voilà,
ça, ouais.
Et tu notes ça sous des formes de blocs et tu te laisses l'opportunité de pouvoir l'exprimer sur le moment même et de l'adapter en fait en fonction de l'endroit et du lieu où tu vas être.
C'est fou parce que c'est, donc Pirette est probablement le plus belge, parmi les plus belges humoristes, et la technique que tu dis, que tu décris, moi j'ai déjà entendu, c'est entre autres un gars qui s'appelle Jay Moore qui fait et de l'imitation et du stand-up, qui a une série, il a déjà joué dans Jerry Maguire à l'époque, pour ceux qui peuvent voir un peu qui est, il jouait un peu le mauvais agent, le méchant, et lui il dit quand je rentre dans un set, il fait beaucoup de comedy club, je sais avec quoi je commence parce que je sais que j'ai mes hits, j'ai mes trucs, je sais avec quoi je termine, et entre les deux j'ai des idées vagues et je les adapte en même temps, mais j'ai l'impression pour Pirette il y a du mal à comprendre que c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, le gars a énormément de talent, et n'importe qui tu lui dis dans une semaine tu dois être sur RTL avec un show, commence à écrire maintenant, la plupart se sauvent au Mexique pour ils changent d'identité, et lui arrive à le faire, donc c'est fou que tu dises, t'es le premier que je croise qui me dit qu'il a réussi à se faire transmettre quelque chose par Pirette, parce que la plupart disent qu'il travaille tellement avec lui-même qu'on n'arrive pas justement à partager quelque chose.
Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que sur le moment de tournage et sur les moments où il doit avoir ce qu'il veut et ce qu'il doit avoir, il est exigeant, tu vois, et c'est vrai que comme il a tendance à avoir trop une haute idée de ce qu'il veut, il n'ose pas déléguer, il délègue rien du tout, donc je pense qu'il n'a pas trop confiance en... Et donc fatalement il a beaucoup de pression sur les épaules, donc il est nerveux, et c'est un gars qui est assez franc, tu vois, quelque part c'est une qualité aussi, tu vois, on peut lui en vouloir de ce caractère de cochon, tu vois, mais t'en as plein qui l'ont à l'intérieur. C'est, il a le mérite quand même de dire ce qu'il pense, s'il a envie de dire putain tu me casses les couilles, tu connais pas ton métier, dégage, il le dit.
Ok.
Alors c'est mal pris parce que ça fout une mauvaise ambiance.
Ça peut casser l'ambiance dans un truc d'humour.
C'est pas un diplomate, mais il dit ce qu'il pense, et bon voilà, il a plein de défauts, mais bon, qui n'en a pas déjà.
Ce que je connais de toi, c'est trois choses. T'avais d'abord une carrière dans le rap, ta conversion à l'islam et ta carrière en humour.
Ouais.
Et donc ça te dérange pas, on va juste repartir du début un peu. Donc moi j'ai appris à te connaître avec donc le single Les Blancs ne savent pas danser. Et comment ça s'est passé pour toi? Parce que si je ne me trompe pas, c'est un succès qui t'a un peu dépassé à l'époque, non?
Disons que ça faisait 10 ans que j'étais dans le rap avant de signer mon contrat, mais là j'ai eu un contrat en France, tu vois, donc le challenge était différent, le ghetto français n'a rien à voir avec ce qui se passe ici en Belgique, il est virulent, il est dictatorial, il est violent, tu vois.
Et tu as eu le contrat après ou avant le titre de Les Blancs savent pas danser?
Le contrat avant, évidemment.
Ok,
avant,
c'est voilà. quand tu étais sous contrat déjà, quand tu as produit le titre.
Bon, moi j'ai signé mon contrat vis-à-vis de maquettes que j'avais, donc j'ai été faire écouter des maquettes, et dans ces maquettes j'avais quasi déjà tout mon album, donc eux ils ont dit voilà, les maquettes sont super, on signe le contrat. Je suis re-rentré en studio pour enregistrer les titres, et dans ces titres là j'avais une ébauche, c'était Les Blancs savent pas danser, j'avais le refrain, j'avais le beat et j'avais le premier couplet, et moi l'idée me paraissait sympa et tout, et on a été la maison de disques a été voir une grosse radio en France s'appelle Skyrock, et le boss de Skyrock il a écouté l'album, c'était, allez, sur 18 titres, c'était 17 titres rap classique, non, non, ouais. BPM, donc un rythme très, très rap classique, un peu la Dr. Dre dans ce goût-là. Et j'avais un morceau plus rapide à 115 BPM, le BPM, hein, c'est le...
Ouais, le nombre de beats per minute.
Exactement. Et donc, j'avais un truc un peu plus rapide, un peu plus enjoué, et c'était une maquette, j'avais qu'un couplet, c'était Les Blancs. Et il a dit, écoute, si celui-là, tu me l'amènes demain, je le joue. Bon, alors, quand t'as le boss de Skyrock, Skyrock qui dit demain je joue, c'est la radio nationale, tu passes là-bas, ouais. C'est fini, tu vois.
Surtout qu'eux, ils ont une rotation super serrée. Quand tu rentres en haute rotation, tu joues à toutes les deux heures à peu près. Donc, ouais,
Et puis voilà, de manière nationale, et beaucoup de jeunes écoutent et tout. Donc si ton titre plaît, après, c'est souvent parti. Ce qui a été le cas d'ailleurs pour nous, on est rentré en studio, on a fait le morceau et tout. Et donc là, je suis rentré avec Les Blancs ne savent pas danser, qui finalement n'était qu'une parcelle de mon univers, mais infime, tu vois, parce que mon univers, moi, je venais du rap classique, je veux dire.
Tu faisais des battles et tout.
J'ai fait des battles pendant des années, j'ai fait les maisons de jeunes, j'ai fait les mixtapes, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai fréquenté vraiment le... Je ne veux même pas parler du hip-hop, parce que nous, on n'a pas connu le hip-hop positif, avec les gens qui tournent. Nous, c'était plutôt même le rap un peu plus racailleux à la française, tu vois, donc j'ai très bien connu ce milieu-là. Et j'avais un album rap classique avec des morceaux rigolos dedans, avec des morceaux plus engagés et plus sensés dedans, mais je n'avais rien de joyeux comme Les Blancs savent pas danser. Et donc je suis rentré, tu sais que la première image est très importante, tu vois, donc je suis rentré avec un morceau un peu genre Fatal Bazooka, c'était l'époque en plus, Fatal Bazooka, Kamini et tout, donc je suis rentré avec un rap comique. Et là-bas, au niveau crédibilité, je parle dans le ghetto français.
Ta street cred, c'était mort.
Street cred, c'était mort, tu vois. Et en plus, j'avais un album qui s'appelait Le Fils du Commissaire. Alors, je veux dire, Le Fils du Commissaire, niveau street cred, c'était pas.
Moins 1000.
Et en même temps, j'avais une vraie street crédibilité ou une rap crédibilité. C'est-à-dire que je savais très très bien comment fonctionnait le rap. Je pouvais, tu vois, te mettre à l'amende n'importe quel MC de France. Je veux dire, niveau technique et au niveau de la phase en elle-même, j'avais pas à rougir de quoi que ce soit.
Ouais.
Et donc, on a fait Les Blancs savent pas danser. Et puis, on s'est dit, ah ben tiens, il faut peut-être quand même montrer que tu sais rapper aussi. En même temps, il faut te présenter. Donc, on va sortir Le Fils du Commissaire, qui est une chouette chanson, mais qui a pas de refrain, qui est pas sympathique, qui est pas populaire, tu vois. Et donc, là, je pense que là, on a fait une erreur sur le choix des morceaux. Moi, ce que je pense qu'on aurait dû faire, c'est assumer.
Et continuer dans la même voie.
Ouais, d'autant plus que Les Blancs, c'était une chanson que j'aimais bien.
À quel point ça a eu du succès? Je veux dire, pour dire une question trash, t'en as vendu combien?
Mais on n'a pas vendu beaucoup, je sais pas, Les Blancs, des albums on en a vendu 10 000, donc tu vois c'était presque rien. Les Blancs on a dû en vendre 20 000. Mais bon,
ça représente un peu de pognon ou pas ça? Moi j'ai aucune idée. J'ai sorti un livre, on en a vendu 2 000, on était trois auteurs, on s'est fait genre 425 boules par personne. Ouais. Donc c'est rien. Les disques,
bon,
je sais pas.
C'était en 2008 aussi, donc le 2008 déjà les CD t'en vendais déjà moins. Ouais. Mais écoute, moi j'ai sur ce projet, j'ai pas pris d'argent par la suite. J'ai pris des grosses avances en fait. J'ai pris 25 000 en artiste, 25 000 en édition. J'ai chopé 10 000 pour m'acheter du matos. J'ai rechopé 15 000 après en édition. Donc sur ce projet, j'ai pris 100 000, duquel évidemment tu déduis tes impôts évidemment. Donc j'ai pris 100 000 et puis j'ai fait énormément de concerts. Et sur les concerts, je gagnais ma vie. Mais okay. J'ai pas gagné d'argent, tu vois, après quoi.
T'as pas gagné assez d'argent pour avoir un coussin à quelque part qui te permette de...
Non.
Et donc, t'as regretté de pas avoir fait un parcours un peu plus pop après?
Non, ce que je me dis, c'est que si j'avais été intelligent, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment une question d'intelligence, c'est une question d'expérience aussi. Nous, en Belgique, personne n'avait jamais vu de contrat, il n'y avait pas de gens qui perçaient, encore moins dans le rap. Et donc, on connaissait pas, en fait, la commercialisation de la chose, les techniques marketing, on connaissait pas. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un morceau comme Les Blancs qui rentre, je garde la même recette, quoi. Je vais pas commencer à dire, ah oui, mais regardez, si j'ai un message, géopolitique, écoutez mon album, je vais le faire entendre aussi. Je m'en fous, tu vois. Ceux qui veulent vraiment entendre ça, ils viennent dans mon univers, et ils s'y misent et ils les entendront. Mais le tout public, le populaire, le gars qui va écouter sa radio, hein, qui a son gosse derrière, qui revient du boulot, je veux dire, s'il a kiffé ça, je lui refais le même à l'envers, quoi. Je lui sors 4-5 galettes dans le même style, vu qu'il a aimé ça, je lui change pas la recette.
T'étais capable d'en faire un autre dans le même style?
Ouais, bien sûr, parce qu'en plus, moi, Les Blancs, c'est un morceau que j'aime bien, tu vois, c'est pas un morceau de...
Tu le redis pas, c'est ça, t'as pas l'impression de t'être prostitué.
Moi, je pense que voilà, tu peux faire des chansons commerciales qui sont cool, et d'ailleurs, si la chanson en général est commerciale, c'est qu'elle touche les gens. Tu vois, tu regardes le succès de la section d'assaut avec Désolé, papa, oui. Maman, c'est ultra efficace, et c'est une chanson ultra sympa que tout le monde aime bien écouter, donc c'est un bon morceau. Donc... Moi, je regrette pas du tout Les Blancs. Pour moi, c'est pas un morceau de pute d'un gars qui s'est dit « Ah tiens, je vais me faire de l'argent. Qu'est-ce qui marche bien ? La plomberie, l'électricité, le rap. Ah, peut-être dans le rap, il y a une piste. Tiens. Et qu'est-ce qui marche ?» Ouais,
c'était pas une démarche commerciale.
Si, il y avait une démarche de succès, de tentative de séduction des médias, évidemment. Tu vois, donc il y avait déjà effectivement une... Je vais pas dire un travestissement, tu vois, mais on va dire une... une adaptation, tu vois, une adaptation ouais. pour le média, en sachant comment le média est. Et puis voilà. Mais bon, après, évidemment, ça a été dur. Et donc, j'étais tiraillé entre une espèce de crédibilité, de non-crédibilité.
T'as pas fait le choix en deux milieux, en gros.
Voilà, j'ai pas choisi de direction. C'est ce qu'on discutait hier avec Stromae.
Bah oui, c'est ça.
Eu l'intelligence, à un moment, de choisir une direction.
Parce qu'il faisait du rap aussi à l'époque.
Et il faisait du rap. Et d'ailleurs, pour moi, il a bien fait de choisir la direction dans laquelle il a prise. C'est une dimension beaucoup plus ouverte, en fait.
C'était un bon rappeur ? Moi, je connais rien au rap.
Moi, je trouve que ça va techniquement. Il avait été déjà original. Il avait fait un clip où il avait un poussin en laisse comme ça. Il avait déjà des. C'est un garçon, tu vois, qui aime bien. Tout ce qu'il y a. Qui aime pas trop les lieux communs, tu vois, et ouais. qui s'est toujours un peu démarqué. Mais après, techniquement, moi, je trouvais pas ça. Extraordinaire, je parle vraiment d'une technique. Ça me touchait pas plus que ça, mais comme le rap de manière générale me touche pas plus que ça. Mais par contre, j'avais déjà vu un concours il y a pas beaucoup de temps. Merci, si tu veux, tu prends.
C'est des gaufres en forme de cœur.
Mais je l'ai vu en fait à un concours qui s'appelle Musique à la Française que j'ai fait aussi à l'époque. Et je connaissais pas. Il est venu tout seul. Il est venu tout seul.
Ce qui n'est pas très commun. C'est pas très commun dans le rap. Normalement, tu barques à 225 à peu près.
Pas de backer, pas de DJ, rien. Le gars tout seul, tu vois, il est venu, il a fait son truc. Et déjà, il m'était dit, ouais, le gars, il vient tout seul, c'est rare, tu vois, parce qu'effectivement, on vient tous avec des backers et tout. Je m'étais déjà fait la réflexion. Et après, il a pris son chemin. Il a été assez intelligent que pour connaître les recettes qui marchent, c'est-à-dire le club. C'est-à-dire le BPM Club, il est parti dans du 125, il a fait un truc sympa, plus aéré, plus chanté, moins de mots. Dans le rap, c'est bah 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 bah.
Oui.
C'est trop de mots, c'est pas assez aéré. Et il a trouvé la bonne piste, en plus c'est un beau gosse, il a trouvé une chouette manière de s'habiller qui était assez originale aussi.
Une manière de danser, désarticuler comme ça, en sautant sur place.
Il a rien inventé. Je sais pas si t'as connu la chanson « Pong, 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 pong ». Une chanson de... Oh, si, qui est sorti.
Sérieux ?
Non, je connais. Dans les années 90, ça s'appelait « Pong ». Et en fait, c'était le bruit du ressort, tu vois, c'est toute la chanson « Pong, pong, pong ». Le refrain, c'était ça, t'avais que les types qui sautaient. C'est comme des ressorts.
Comme donc, quoi, voilà. Faut pas se casser le cul.
Le choix de la direction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je conseille aux gens, c'est de leur dire, écoute, choisis-toi une direction, en tout cas sur un projet, tu vois. Ça veut pas dire que tu dois te choisir une direction à vie, parce qu'évidemment, ça, c'est chiant. Mais voilà, tu dis, par exemple, je vais faire un projet à 125 BPM, avec des sons un peu électro, avec un truc un peu chanté.
Assume-le jusqu'au bout.
Tu l'assumes et tu fais tout un projet là-dessus. Si demain, tu te dis, bon, ben voilà, moi, j'ai envie de faire un album punk, j'ai envie de faire du punk avec des grosses guitares dégueulasses, eh ben, je vais faire tout un album punk.
C'est Woody Allen dit la même chose. Dans son tiroir, j'ai vu donc le documentaire, dans son tiroir, il y a plein de projets écrits sur des bouts de papier. Et en gros, il dit, si j'en choisis un, je le fais. Une fois qu'il est fini, je m'en fous de la critique que tu voudras. Je retourne dans mon tiroir, je choisis un autre projet et j'enchaîne. Si t'as envie de faire 6 choses, mais pas les 6 choses dans le même projet, ça, c'est débile. Fais 6 projets, commence par un, va au bout de l'idée. Quoi.
Mais en même temps... Je dis ça de manière simple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, tu sais, on te dit par exemple pour te nourrir, il faut manger de manière variée. Tu vois, tu peux pas te dire ah ben tiens aujourd'hui toute cette semaine je vais bouffer que des carottes. J'ai choisi ma direction. Ça va être que des carottes. On va te dire non, t'es un peu con. Prends un peu de chou-fleur, prends un peu de tomates. Donc tu vois la variété est importante aussi. Et moi je suis un garçon extrémiste dans tout de nature et c'était une fierté à l'époque et aujourd'hui je me rends compte que c'est une tare. Tu vois parce que on peut pas être comme ça. Tu vois en permanence dans l'extrémité. Tu vois il faut à un moment se recentrer.
Un peu d'équilibre. Ouais.
Voilà, et je pense que finalement, je me pose la question de savoir si c'est une idée de choisir une direction comme ça et de se dire je vais faire que ça, alors que t'as peut-être plusieurs choses. Et tu vois, dans quelque part, je le pense qu'il faut choisir une direction et en même temps,
mais tu peux choisir une direction.
J'ai même tiraillement de l'autre côté qui me dit mais non, pourquoi toujours ne faire qu'une chose.
Tu peux choisir une direction dans un projet et avoir 4-5 projets en même temps aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais parce que t'as pas arrêté la chanson et t'as l'humour aujourd'hui. Mais avant d'arriver à l'humour, une fois que t'as donc eu ce succès avec Les Blancs savent pas danser, le truc est un peu parti. Pas aussi efficace que ça aurait pu être après. T'as un peu pété un câble à un moment donné, non?
Mais j'ai pété un câble parce que bon, j'étais un gros fumeur de shit.
Ok.
Très gros fumeur de shit pendant des années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout arrêté en fait pendant 2 ans et demi. Le café, la cigarette, l'alcool, j'avais tout. J'étais parti dans l'extrême comme d'habitude.
Ok.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est que donc pendant ce temps-là, mon projet commençait à se mettre en place.
C'était à quelle époque quand t'avais décidé d'arrêter tout?
C'était
donc, juste avant Les Blancs de s'affranter.
Ouais. Donc genre à partir de 2000, je crois qu'en 2006, j'avais arrêté.
Ok. T'as quel âge d'ailleurs? Je sais même pas quel âge.
33 ans bientôt.
Hein. Ok.
Et donc j'ai arrêté 2 ans et demi. Puis un jour je me suis dit, ah ben tiens, c'est pas, t'es parti dans l'extrême de nouveau. Fume-toi un petit joint de temps en temps, tu vois. Bois-toi un petit verre de vin de temps en temps, et ce sera très bien comme ça. Et donc en fait, bon, tu vois comment je fume la cigarette. Hein, je suis un compulsif. Donc,
ouais.
Et en fait, je m'étais dit, la cigarette, je veux pas recommencer. Erreur de ma part. Parce que quand j'ai recommencé à fumer un joint, dans le joint, qu'est-ce qu'il y a? C'était 80% de tabac et 20% de shit. Donc, quand j'ai recommencé à fumer un joint, directement, mon corps, il avait une mémoire, le tabac. Et donc, j'ai de nouveau eu besoin de tabac. D'autant plus que, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais le tabac, c'est vraiment une réponse à une émotion. Et comme j'étais dans une grande période de stress, bah, tu sais, dès que t'es stressé ou dès que t'es anxieux sur un sujet, bah, ton cerveau va te dire, bah, tiens, fume-toi une clope, ça va aller mieux. Et donc, si tu veux, juste au moment où j'ai eu beaucoup de pression, parce que j'allais devoir représenter le rap belge malgré moi, tu vois, alors que moi je venais de Waterloo, mon père était commissaire, j'avais rien à voir avec le rap belge, j'étais pas du tout un représentant du rap belge comme eux voudraient qu'il soit, et en même temps j'étais le seul à aller en France en tant que rappeur belge, donc j'avais cette responsabilité.
On te le remettait toujours sur le nez, quoi qu'il arrive. Voilà, dis-nous, rappeur belge. Voilà,
c'est ça, et j'étais tout seul, et donc j'avais une pression quand même énorme, c'était une période de stress, et donc si j'avais fumé la cigarette à ce moment-là, j'aurais fumé 2 paquets par jour, c'est ça que je veux te dire. Oui. Mais comme je ne voulais plus recommencer la sèche, j'ai commencé à fumer des joints comme des sèches. Et du jour au lendemain, j'ai recommencé à fumer 20-25 joints par jour. 3 mois après, j'étais chez les fous.
Oui, parce que
3 mois après, j'étais chez les fous, 3 semaines.
T'as vraiment été... Et c'est toi-même qui t'es... Je ne savais pas si, t'avais eu... si ça allait te déranger d'en parler, mais... C'est toi-même qui est allé à l'hôpital psychiatrique et qui a dit, fais quelque chose avec moi. C'est toi-même qui t'es.
Non,
c'est ta famille qui est venue te porter?
Non, c'est pas ma famille. Non, mais il faut. Tu sais, moi, j'étais dans. Le diagnostic qu'ils m'ont donné, c'est bipolaire à tendance schizophrénique paranoïde, tu vois.
Oh, donc c'est lourd.
Moi,
quoi.
J'étais dans un. Vraiment, tu vois, dans un. Dans une schizophrénie, en fait.
Ok, et comment ça s'est passé, donc, ton arrivée là-bas?
Ben, en fait. Bon, j'ai un ami qui a fait psycho qui était. Psychologue de formation, un de mes meilleurs amis que je ne vois plus d'ailleurs maintenant, et qui me connaissait très bien depuis tout petit, on était des amis depuis très très longtemps, et qui a vu que je commençais à chauffer, que je commençais à avoir des discours sur l'astrologie, la numérologie,
tout
ce qui était occulte, voilà, et puis moi j'ai vraiment eu un trip schizophrénique, paranoïde, c'est-à-dire à la fois, tu vois, j'étais persuadé d'être en mission, tu vois, d'avoir un rôle à jouer, tu sais, vraiment. Donc la schizophrénie, oui. Genre tu te prends pour le messie, et en même temps paranoïde dans le sens où putain tout repose sur moi, quoi, si je le fais pas tu vois, genre j'étais chez moi en train de calculer les chiffres comme ça, oh putain ils sont en train de m'épiler, tu vois.
Ah oui,
c'est vraiment, ben oui, parce que tu te donnes un rôle, tu vois, de seul et d'unique, on va dire, genre
d'élu,
tout repose sur toi, l'élu. Et à côté de ça, après, t'as la parano qui va derrière. Oh putain, mais puis, oh, ils savent, tu vois. Donc, c'est, oui. Les deux sont mêlés. Et donc, c'était un truc de malade. Le pire, c'est que je me souviens, en fait, aussi de.
Ton état d'esprit.
Des choses que j'ai faites et qui sont. Et bon, ça va, franchement, je te dis, j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire.
Donc, ton pote, il reconnaissait ça. Et donc,
mais
c'est
en
lui
fait,
qui
ce qu'il y a, c'est que j'avais des. Il y avait une phrase qui m'avait frappé, qui était rentrée dans mon délire et qui compte encore d'ailleurs aujourd'hui. S'il y a une invitation, on ne se refuse jamais.
Okay.
Une invitation, on ne se refuse jamais, tu vois. Donc c'était de dire, voilà, que quand on t'invite, des fois t'as pas envie d'y aller, mais je pense qu'il faut y aller parce que peut-être il y a quelque chose pour toi là-bas.
Ah, oui.
Et d'ailleurs ce qui m'a fait délirer, avec Jim Carrey, j'ai un truc, parce que putain, Jim Carrey, tous les films qui sortent, tu sais c'est quoi, moi j'étais fort dans les chiffres, en fait.
Okay.
Donc c'est-à-dire que moi ce que je faisais, c'est que j'attribuais un chiffre à une lettre et je calculais les mots, tu vois, et puis je voyais des signes dans les plaques de voiture, moi, tu vois. Parce que des chiffres, il y en a partout, des chiffres. Donc, par exemple, tu vas te dire la lettre A, c'est le numéro 1, B, 2, etc., etc. Puis tu vas te dire, ah ben voilà, le mot Jésus, J, donc numéro 10, tac, tac, tu comptes, tu fais le truc. Ah d'accord, donc 344, c'est Jésus. Et puis dès que tu vois un 344, tu dis, oh putain, il faut que j'aille par là. Tu vois, c'était vraiment un
synchronicité
de malade mental.
C'est partout, ouais.
Et à ce moment-là, quel film carré sort?
23.
Numéro 23,
ouais.
Putain, mais dans mon délire, quoi. Numéro 23 dans mon délire, c'était une folie.
Et t'es allé le voir et t'as puis, fait une crise d'épilepsie.
Il avait fait Bruce tout... Non, je l'ai vu à la maison. Il a fait, il est Bruce tout puissant.
Ouais,
tu vois,
oui.
Le gars, ça devient un dieu, sortait. Il a fait tous des films comme ça de ouf. Il a fait
Truman Show aussi dans le truc parano.
Truman Show.
Tout le monde t'observe.
Et ouais, Truman Show qui est excellent à fond. Tu vois,
c'est un très bon film.
Moi, j'adore Jim Carrey parce que je trouve que dans le choix de ses films, c'est toujours des gros films philosophiques. Et pour en arriver à Yes Man. Parce oh, que oui. Yes Man, c'est que ça, tu vois.
C'est une invitation, on se refuse jamais, c'est le point.
C'est un film magnifique, tu vois. Et, tu vois, donc comme quoi, tu parlais de prémices, tu vois. Une invitation, on se refuse jamais, c'est une phrase magnifique si tu l'analyses et que tu vas plus loin. Tu regardes ce film, il est extra, ce film. Et donc, voilà, tout, là où je voulais en venir, c'est que mon pote m'a dit, écoute, tu crois que ce serait bien si on allait chez le médecin aux urgences, à l'hôpital psychiatrique.
Moi, et ça, c'est dur pour un pote à dire et pour un pote à entendre.
Ah ouais, pour lui, ça a été dur. Moi, je m'en foutais parce que j'étais dans mon délire. Parce que moi, j'étais dans un délire. Moi,
toi, tu te rendais compte de rien, tu doutais de rien du tout.
Quand il m'a dit ça, moi, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête?
Ah, il m'épie.
Une invitation se refuse jamais.
T'es sérieux?
Il y a quelque chose pour moi là-bas. Et donc, j'y suis allé vraiment de bon cœur, tu vois. D'ailleurs, c'était à pisser de rire parce que je suis arrivé là-bas, il y avait un noir qui était là. Et il était aussi aux urgences, je sais pas pourquoi il était là et tout. Et j'étais dans mon délire. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose pour moi là-bas à faire, tu vois. Donc,
ouais.
J'étais pas là par hasard. Donc, quand je me suis retrouvé dans cette salle avec ce Renoir, je me dis, c'est peut-être lui, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as, toi? Et il me dit, ah, ben tiens, j'ai ça. Je le regarde dans les yeux, j'ai dit, à partir de maintenant, t'as plus rien. Et je dis, comme ça, tu peux y aller. C'est bon, t'es guéri, c'est fini. J'étais chaud, mon vieux, tu vois.
Ah oui, t'étais.
L'image était la cafetière. Imagine ta tête comme une cafetière, tu vois. L'eau, elle a bouilli, tu vois. Et à un moment, elle a débordé, tu vois.
C'est
mon cerveau était rempli de lave, tu vois. C'était brûlé, c'était cramé.
T'as traversé le mur à un moment donné.
Ouais, j'étais plus là.
Et toi, quand tu lui as dit ça, t'étais vraiment persuadé qu'il n'y avait plus rien?
Ah ouais. Là, j'ai dit, c'est bon, tu peux y aller.
Jésus venait de soigner Lazare, quoi.
Tu as quoi, toi? Le sida, c'est fini, tu peux partir.
jette toutes les capotes et
mais c'était presque ça. Mais
Et donc comment ça se passe? Donc ton pote reste avec toi?
Mon pote est resté avec moi. T'as un psychiatre d'urgence qui est là. Le gars, il m'a dit, oui, pourquoi vous venez? Mais oui, mais madame, rendez-vous compte, s'il y a de plus en plus de gens en psychiatrie chez vous, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Parce qu'il faut pas croire, parce que j'avais pas perdu ma verve et j'avais pas perdu mon sens de l'analyse et de la lucidité et même du pouvoir.
La formule,
De convaincre. Mais en même temps, bon, la meuf, c'est une psy, elle connaît très très bien les
couleurs. Elle en a envie d'autre.
Elle écoute même plus, tu vois. C'est oui, d'accord, monsieur. Va lui chercher deux petits cachetons aussi, il faut qu'il dorme un peu, le monsieur.
Il est fatigué.
Je faisais des nuits blanches et c'était une folie totale. Tu vois, donc voilà. Et donc, ils m'ont donné des petits cachetons. Donc, moi, pareil, je me suis dit, non, mais c'est que je dois les prendre. Et tu sais, là, c'est en mode néo, tu vois. Mode néo, tu vois. Oui. Oh putain, le rouge ou le jaune? Oh putain, tu vois, faut pas que je me trompe. Tout devenait un délire. Tout était matière d'interprétation. Tout ce que je voyais était une interprétation. Une flèche, un truc, un clignotant, une plaque de bagnole, un chiffre, une publicité. Je voyais des chiffres.
Dans ton cerveau, il est fou.
Et je suivais. Et donc, j'étais fou, mais vraiment fou.
Heureusement que t'acceptais tout. Parce que t'avais refusé de te soigner, ça aurait été.
Voilà, j'étais dans un très bon délire. Hein. Par contre, j'étais pas du tout agressif avec les gens.
Au moins, c'est déjà ça. Et donc, ils t'ont gardé 3 semaines.
Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ils m'ont pris tout de suite, ils m'ont donné 2-3 cachetons. Je sais même pas s'ils m'ont pris tout. Je suis plus mal. Mais ils m'ont donné 2-3 cachetons qui m'ont un peu calmé. J'ai beaucoup dormi. J'ai récupéré un rythme en fait à l'hôpital parce que là-bas on te force à te lever très tôt, à te coucher très tôt. Et donc tu sais, je faisais beaucoup de nuits blanches et tout. Tu sais, dans mon délire, j'étais très très chaud. Et donc là, j'ai refroidi. Ils m'ont cachetonner la gueule et puis bon là ils m'ont lobotomisé la gueule. Après j'étais au 6e sous-sol, tu vois, ils donnent des cachetons de chevaux et en fait voilà, le problème c'est qu'après je suis sorti de l'hôpital pour faire le clip Les Blancs Savent Pas Danser. Si tu regardes le clip Les Blancs Savent Pas Danser, je sors de l'hôpital psychiatrique.
Je pensais que c'était après que t'avais pété un câble.
Et si tu regardes ce clip, tu regardes la gueule que j'ai, tu vois, là je suis encore totalement dedans. Je suis cachetonné, donc je suis calmé, je suis un peu refroidi, mais je suis encore totalement dedans. Et si tu regardes il y a un making of de ce clip qui a été fait, tu regardes ça, tu m'écoutes parler, tu pètes un plomb.
Ah ouais, ça fait.
Mais moi, j'ose même plus regarder parce que j'ai honte, tu vois. Parce qu'après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai déjà mis du temps après à comprendre que j'avais pété un plomb. J'ai mis du temps à l'accepter.
Ouais, ouais, ça doit être dur de se dire, ah tiens, je suis allé.
Mais moi, j'ai eu honte, comme beaucoup de gens qui ont des délires comme ça, et quand ils redescendent, tous les gens que je fréquentais à cette époque-là, je les vois plus.
C'est pour ça, c'est toi qui veux plus les voir.
Ouais, parce que je me sens gêné, parce qu'il y a quelque chose qui est parti, ça a insulté mon intelligence aussi.
Alors que eux, ils voudraient encore te voir.
Ah ouais, non, mais eux n'ont rien à voir et je leur en veux pas. Et je comprends tout à fait le fait que eux. Maintenant, quand je me mets à leur place, évidemment que c'est difficile. T'as un type qui pète un plomb, c'est un pote à toi.
Ouais.
T'as envie que ça aille mieux, t'as peur. Je veux dire, je comprends. Donc moi, je leur en veux pas. Et j'ai évidemment rien contre eux. Ce serait quand même la moindre des choses. Mais je veux dire, je ne veux plus les voir. Tu vois,
Parce que t'as encore. T'es pas encore guéri de cette honte-là.
Ouais. Non.
C'est quand même dingue.
Je peux plus être moi-même. J'ai toujours l'impression de devoir me contrôler. Je peux plus, quoi. Je peux plus.
C'est quand même triste de dire que. Encore en 2012, oui, c'est ça. Mais n'importe quelle maladie, même la dépression, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils sont fatigués au lieu de dire qu'ils se tapent une dépression ou un burn-out. C'est dommage de devoir avoir honte d'un truc qui est une maladie. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. C'est pas. Tu l'as pas cherché. Et t'as gardé des. Excuse-moi si c'est rude comme question, mais t'as gardé des séquelles de ça ou t'es complètement guéri?
Moi, je vois toujours des signes dans les plaques de voiture.
mais t'es capable de faire la différence entre une pensée rationnelle et une pensée.
Je sais, quoi. C'est-à-dire que je resterai toujours dans le délire, en fait, parce que j'ai calculé les mots, les trucs. Je les ai imprimés et ça restera toujours, tu vois. Mais maintenant, ce que je me dis, c'est je vois un truc dans une bagnole, tu sais, parce qu'en plus, t'as trois lettres. Donc, tu sais, si je te mets DBS, tu peux te dire n'importe quel mot qui va avec, tu vois. Donc, peut se faire des trips au quotidien sans arrêt. En plus, je suis tout le temps en bagnole, donc voilà. Mais souvent, ce que je me dis, là, t'es quand même en train de voir des signes dans les packs de bagnole. Je sais pas si tu te rends compte.
Donc, t'as une conversation avec toi-même pour.
Donc, maintenant, je commence à m'en rendre compte. Mais c'est vrai que je suis vigilant aussi. C'est vrai que la religion m'a beaucoup aidé. Parce que, premièrement, mon trip était mystique.
Okay.
C'était en rapport avec vraiment quelque chose d'au-delà. Premièrement, ça m'a remis pied sur terre parce que, notamment en plus dans l'islam, c'est vraiment Dieu unique, tout puissant. Moi, je me suis pris pour Dieu. Tu peux pas faire plus pire dans la religion que ça.
Oh oui, plus sacrilège. Ouais.
Donc, ça m'a recadré, tu vois, je veux dire, sur mon état, sur ce que je suis, c'est-à-dire un humain petit, mortel, tu vois ce que je veux dire. On va dire insignifiant dans la masse.
Et c'est assez apaisant, cette espèce d'humilité-là, de dire que finalement, je suis rien.
À fond, parce que là, du coup, c'est t'as pas la responsabilité du monde sur tes
Joe Rogan, un humoriste, il lui dit ça, je trouve ça, il est assez érudit, puis il fouille, puis il y a plein d'infos, et en interview, un jour, quelqu'un lui dit, tu t'essaies de tout maîtriser, et il a dit, non, je m'intéresse. Mais je me rends compte que souvent, je comprends rien. Ouais. Et c'est la pensée la plus apaisante au monde. Voir quelque chose, se dire que tu comprends pas et faire c'est pas grave, respirer un coup et continuer avec sa vie. Et moi, j'ai ce côté-là aussi. J'essaie de, dès que je vois quelque chose que je comprends pas, j'essaie de comprendre. Mais tu dis, oh, mais ça peut devenir malsain parce que si ça tourne à l'obsession, tu peux péter un câble. Donc le fait de se dire, je suis pas assez intelligent pour comprendre le trois quarts des choses qui se passent ici. Et c'est pas grave, c'est une des pensées les plus apaisantes au monde. Quoi.
Le fait de revenir à ta place, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis l'hygiène de vie qui va avec aussi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, ça c'est une grande chance que j'ai eue. C'est que, en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je t'expliquais avec comme quoi j'avais arrêté et tout, quand je suis allé à l'hôpital psychiatrique, je pouvais plus fumer des joints là-bas.
Ils en fournissent peu en général.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à fumer la clope à l'hôpital psychiatrique parce que pour le coup, il y a qu'un fumoir d'ailleurs, il y a un couloir et un fumoir.
Ouais.
D'ailleurs là-bas, j'en ai vu de toutes les couleurs, je te raconte pas tout, mais là-bas c'était énorme aussi.
Qu'il y avait,
et en fait, j'ai recommencé à fumer la cigarette et donc du coup, comme j'ai eu ma dose de tabac, ce que je cherchais en fait dans le joint avant, j'ai pu me débarrasser du joint et j'ai arrêté de fumer le joint. Et puis un an et demi ou deux ans après, je me suis converti à l'islam, j'ai arrêté l'alcool. Et donc, le fait de ne plus avoir de produits qui jouent sur la chimie du cerveau, ça m'a beaucoup aidé. Plus, évidemment, l'hygiène de la prière, l'hygiène de vie musulmane. Et je dois dire, c'est pour ça que je me suis estimé sauvé par Dieu sans partir en
trip.
Parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu une schizophrénie. Quand tu la déclenches, c'est fini. C'est-à-dire, tu as des gens, ils sont porteurs du gène. On sait que le joint est un déclencheur. T'en as, ils l'ont pas. Si tu l'as et que tu la déclenches, c'est fini.
Okay.
Tu vas être schizophrène à vie. Et si tu l'as pas, tu vas fumer tant que tu veux. Tu le déclencheras jamais. Mais on sait pas qui l'a et qui l'a pas.
C'est un risque.
Moi, je l'ai visiblement un petit peu. Je l'ai déclenché et je dois dire qu'aujourd'hui, ça va. Je sais que je suis un peu foufou. Tu vois, je sais que je dois faire attention, notamment dans les gros coups de stress. Parce que visiblement, je suis assez fragile vis-à-vis du stress. Et donc, si demain j'ai un décès dans ma famille ou un coup dur, tu vois, vraiment un gros coup de stress, je dois faire attention.
T'es exposé.
Et à mon avis, dans ces moments-là, il faut que j'aille vite chez mon psy pour lui dire j'ai un truc, je vais peut-être pas gérer, aidez-moi, donnez-moi des cachetons pour. Parce que dans ces moments-là, je peux, à mon avis, je crois que je suis susceptible de pouvoir
basculer.
Donc ouais. Je fais attention au stress.
J'ai quand même juste une dernière question sur, sur ce que tu as raconté, donc ton séjour en hôpital psychiatrique et donc ta condition, si on peut appeler ça comme ça, avec un peu d'euphémisme. Quand tu me le racontes, moi, ça me fait toujours mal. Je veux dire, c'est tragique, comme c'est pas chouette, on souhaite ça à personne, mais ta façon de le raconter et la vision que t'as là-dessus, je me dis toujours, merde, quand est-ce que tu vas l'intégrer dans ton stand-up? Quand est-ce que tu vas en parler dans ton spectacle? Tu me dis que t'as encore une partie de honte qui fait que t'arrives pas à parler aux gens de cette époque-là encore, mais tu crois que tu vas y arriver un jour à l'intégrer dans un spectacle? Parce que c'est ça, et c'est simple pour n'importe qui est semi-fou, c'est-à-dire le trois quarts de la planète, d'entendre quelqu'un qui a vécu ça et qui te le raconte et qui, ça peut être même thérapeutique pour toi, non?
Bon, premièrement, c'est ce que je te disais, tout n'est pas digéré. C'est-à-dire que moi, c'est un sujet que j'ai digéré, on va dire, sur un quart, ou sur la moitié, que j'ai accepté sur la moitié. Donc, voilà, bon, il faut se dire aussi qu'on ne se souvient pas de tout. C'est quand même un moment particulier, donc il y a des choses que tu zappes et que tu oublies. Donc, j'ai pas mille et un souvenirs non plus. J'ai quelques souvenirs comme ça un peu foufou, mais bon, je les ai pas tous. Et puis, voilà, je crois que l'acceptation n'est pas encore totale. Et donc, je pense que je suis peut-être pas encore prêt d'en parler. Parce que comme c'est un sujet qui me met mal à l'aise, c'est-à-dire que quand je vais commencer à en parler, je vais en parler avec ce mal à l'aise qui va mettre les gens mal à l'aise aussi. Donc il faut que j'arrive vraiment à digérer le truc et à me dire bah non, en fait ça n'a rien de grave et c'est effectivement rigolo, c'est une leçon de la vie, c'est un témoignage comme un autre. Et donc je le ferai, mais je l'ai fait un peu, hein, je l'ai fait un peu,
ouais.
Où j'expliquais que j'avais fait un pétage de plomb et que je me prenais pour Jésus et que je disais que ce qui était compliqué à l'hôpital psychiatrique, c'est que tout le monde se prend pour Jésus, donc à un moment tu vois la confrontation des Jésus, je dis salut, moi c'est Jésus, ah non Jésus c'est moi, non c'est moi, ah non c'est, ah, t'es Jésus, ben vas-y prouve-le. Et je dis putain, le gars il m'a pris une Saint-Émilion, il a claqué des doigts, il me l'a transformé en bouteille d'Évian. Je dis oh putain, celui-là il a quelque chose, tu vois, genre la confrontation, parce que c'est vrai en plus, tu vois, tu te prends pour le Messie, c'est ça qui est problématique, c'est que tu vas à l'hôpital psychiatrique, t'es dans un délire et tu te retrouves que avec des gens qui sont dans un délire différent du tien, mais ça tourne souvent autour des mêmes choses.
Tu causais beaucoup avec les autres personnes?
T'as pas le choix, je veux dire, t'es là, t'es dans le couloir, tu fais des allers-retours dans le couloir, tu vas dans le fumoir, point. T'es que avec les fous en permanence. Bon, t'as les infirmières qui sont là, donc tu peux un peu discuter avec elles, mais.
Ça doit pas être facile de draguer une infirmière. T'imagines, si maintenant il y en a une que tu trouves mignonne,
et tu dis,
je suis à l'hôpital des fous, et je dois essayer de la draguer, tu pars avec un désavantage, là.
Mais c'est vraiment en plus ce côté avec cette file soir et matin, tu vois, de tous les pays, toi y compris, tu vois, avec ta petite robe blanche, là, tu sais, d'hôpital psychiatrique.
Ça se passe vraiment comme ça.
Avec l'infirmière, tu vois, qui a tous les petits cachets, qui donne le cachet, et tu es obligé d'aller chercher ton petit cachet.
Ça se passait vraiment comme ça.
Ah ouais, t'arrives avec ta main, bonjour. Alors elle voit ton nom, tu vois, elle te donne ton petit sachet de pilules, genre le corps du Christ. Merci. Et puis tu dois aller te coucher, c'est vraiment un truc de malade. Et là-bas, tu te retrouves avec des oufs de tous les styles, quoi, tu vois, des jeunes, des vieux, c'est un truc de malade. Mais bon, voilà. Mais peut-être qu'un jour, j'en parlerai, tu vois. Mais c'est un sujet intéressant, la bipolarité, parce qu'il y en a de plus en plus qui le sont. C'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes. Tu regardes, moi, je suis très, très moraliste dans mes raps, surtout vis-à-vis de la drogue et de l'alcool. J'y prenais conscience, tu vois, qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Ce syndrome et qui vont le déclencher à cause du joint et que ça va être dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent que le shit c'est rien du tout, c'est une drogue douce alors que c'est une merde monumentale, tu vois. Et
oui, toi, t'as pas juste arrêté, tu restes avec un côté justement moralisateur maintenant sur la drogue aussi.
Moi, je suis totalement moralisateur et maintenant je suis fier de ça. C'est-à-dire que ici, être moralisateur, c'est totalement mal vu, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il a, il va pas nous faire la morale, celui-là, il va nous faire la leçon. Tu vois, c'est quelque chose qui est pas bien vu culturel. Et quelque part, moi, j'ai non, rien à foutre. Moi, je suis moraliste. Ouais, je suis moraliste et j'assume. Et ça me va, tu vois. Je préfère dire à un jeune, écoute, méfie-toi du shit, fais-moi confiance, que de lui dire, ah ouais, on est là, on fume du shit, ah, c'est bien, on a du bon shit. Tu vois, j'ai eu 17 ans aussi, je l'ai dit, des années, hein, tu vois, mais à l'âge que j'ai...
Tu renies pas ce que t'as fait, mais t'as l'impression
c'est pas
de...
que je renie pas, c'est que, voilà, c'est con, c'est ce que j'ai fait, c'est con, mais bon, comme tu dis, voilà, je suis pas le premier ni le dernier, je veux dire, on a tous une jeunesse aussi.
Tu connais Richard Pryor?
Je connais de nom, mais je parle pas anglais, donc j'ai jamais vu.
Il y a un truc, lui, c'est un de ceux qui... C'est un spécial, et il a pété une série de câbles, et à un moment donné, après une semaine, en faire un trip de coke semi-ininterrompu pendant une semaine, il a décidé de s'asperger d'alcool et de se... Il s'est... il s'est immolé en gros.
Tu sais qu'il y en a qui ont fait ça en Tunisie, ça a développé des trucs quand même. Il y a eu des répercussions.
Et lui, donc, il avait complètement pété un câble, il s'était immolé par le feu, brûlure.
Il cartonnait déjà dans le One Man.
Oui, mais il cartonnait depuis un bout de temps, mais c'est genre, il s'est marié, le gars, 7 fois avec 5 femmes différentes, a été élevé, je crois, par sa grand-mère dans un bordel. Donc, un truc vraiment. Mm. Il avait pas nécessairement, disons, une vie simple, et c'était un peu un fou. Mais un fou génie, mélange entre les deux. Et il s'est immolé par le feu. Et donc, à l'hôpital pendant un bout de temps, et dans son one-man show suivant, il a décidé d'en parler. Il termine son dernier gag, son spectacle est fini. Et c'est Pablo Andrés, je crois, qui m'a raconté comment ça, je l'avais pas vu. Et il dit, ah, putain, juste une petite dernière pour la route, on va faire. Il sort de sa poche une allumette, craque l'allumette et fait bouger l'allumette genre de gauche à droite. Il dit, vous savez ce que c'est, ça? Et c'est Richard Pryor qui sort de son appartement. Et donc, il se foutait de sa gueule. Il dit, un truc que j'ai appris vraiment, c'est que quand t'es en feu, les gens ont tendance à te laisser passer et à t'ouvrir le chemin. Et donc, pour lui, c'était une façon, justement, de thérapeutiser un peu tout. Parce que c'est quand même un peu la loose de dire, après un trip de drogue, je me suis immolé par le feu et j'ai failli mourir. C'est pas ce qui te fait passer pour le mec le plus cool sur la Terre. Je me dis, tac. Et c'est ça qui est bon, moi, je trouve, dans le one-man show et dans le stand-up, et qu'on voit rarement aussi, parce que c'est pas évident de trouver ça, mais trouver le truc qui est tellement dur à dire que celui qui l'a... Toi, si tu parlais de ton truc psychiatrie, imagine le silence que t'aurais, l'écoute que t'aurais dans la salle. Ouais. Personne se dirait... Mettons, si quelqu'un dit, hier, j'étais avec ma copine, et puis tu sais pas si c'est vrai ou pas. Mais toi, tu dis, ah, après tel truc, je suis passé par l'hôpital psychiatrique. Il y a personne qui se dit, ah, ça doit pas être vrai. Il y a une espèce de sincérité qui va avec ça, qui est extrême, et on est obligé de te suivre et on t'écoute. Et j'irai pas jusqu'à dire que je t'envie, parce que, évidemment, c'est pas le cas.
Ça peut affumer un peu de cheese, ça peut toujours venir.
Je vais travailler là-dessus, on s'en reparle dans un
an. Une bouteille d'alcool, une boîte d'allumettes, un peu de cheese, tu peux t'en sortir.
Je fais un combo entre les deux.
Il y a un spectacle en vue. Il y a un spectacle en.
Je fais une priordino, quoi. Ouais, je fais un mélange entre les deux. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Après, c'est une question d'angle, par exemple. Là, tu vois, c'est l'angle est génial. Tu vois, quand il dit comme ça, c'est marrant parce que quand on est en feu, les gens ont tendance à te laisser passer. Mais tu vois, moi, vis-à-vis de mon délire à moi, j'ai encore eu tellement de mal à l'identifier. Tu vois, ne fût-ce que par le diagnostic. Tu vois, règle diagnostic, il est compliqué.
Ouais, ouais.
C'est bipolaire, à tendance schizophrène, paranoïde. Et déjà, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas genre tu t'immoles par le feu, on a compris le,
le délire. Ouais.
C'est beaucoup plus, je vais pas dire que c'est subtil, mais c'est plus tordu, quoi. Et après, trouver l'angle, c'est quoi? C'est je me suis pris pour le Messie, j'étais le Messie, et tu vois, c'est réussir à trouver le bon angle qui va avec, tu vois. Et pour ça, je pense qu'il faut comprendre toi-même ton délire, ce qui est pas évident, pour après pouvoir trouver l'angle qu'il faut et partir en délire dessus.
Donc c'est...
Mais j'y pense, mais c'est toi qui m'as allumé déjà la petite case avec ça, parce que tu m'avais dit, putain, mais il faut que tu parles de ça, et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et c'est vrai que quelque part on fait toujours les meilleures choses avec les choses qui nous ont touchés ou marqués le plus dans notre existence.
C'est très profond et très sincère, forcément, et c'est surtout parce que j'ai vu donc ton stand-up, et je trouve que ça se marie bien avec ton style quand tu parles de l'islam. Hier, on était du côté de Warem, dans un auditoire très, 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 très blanc. Et tu dis, bon, l'islam, c'est pas la religion qui a la meilleure réputation pour une série de raisons. Ouais. Et c'est quand même un choix difficile. Moi, si j'arrive et je fais 2-3 blagues sur la neige, je me dis jamais, en regardant la gueule d'un public arriver, peut-être que c'est un public. C'est jamais difficile pour moi. C'est pas un sujet qui est touchy. Mmh. Alors que toi, de temps en temps, ça peut être un sujet touchy. Et dedans, tu dis, ça a été compliqué de l'annoncer à ma mère parce que c'est une raciste pratiquante. Ouais. Et c'est pas des choses faciles déjà à dire. Tu sais que quand tu dis je me convertis à l'islam, déjà tes amis, tes plus proches peuvent réagir bizarrement. Est-ce que tu racontes donc dans ton spectacle, ta mère, elle a vraiment réagi bizarrement, ou non, ça s'est romancé?
La vraie réaction de ma mère, ça a été, je lui ai dit que je m'étais converti à l'islam, et elle m'a dit, ah bah tiens, voilà autre chose qu'elle m'a dit.
Sérieux?
Donc ça, c'est la vraie réaction de ma mère. Donc voilà, mais écoute...
Et aujourd'hui, ça, ton entourage, tout le monde...
Je crois qu'ils sont contents, parce que quelque part...
Ils ont vu que ça te faisait du bien.
Ben voilà, je suis dans une vie beaucoup plus sage. Ma mère, elle est grand-mère, grâce à l'islam.
Ah oui, t'es papa depuis quelques mois.
Voilà, tu vois, si je suis papa, c'est parce qu'à un moment, la religion m'a dit que le mariage et que le fait de se caser, c'était important, sinon je l'aurais fait. Donc moi, la religion, ça m'a quand même assagi, ça m'a rapproché de la maison, comme je disais. Donc il y a tout un tas de choses qui en ont suivi. Voilà, je suis plus en train de me défoncer la gueule, donc je travaille plus, j'ai une femme. Comme t'as une femme, tu vas moins perdre ton temps dans les cafés, à rien foutre. J'ai un gosse, ça t'ouvre aussi les yeux sur tout un tas de choses.
Ta street cred, elle en a pris un sacré coup maintenant. Oh, t'es marié, tu bois
cred,
plus, t'as des enfants.
J'en ai strictement plus rien à foutre.
Ouais. Mais c'est vrai, ça t'en a plus rien à foutre. Mais honnêtement, t'en as encore. J'ai l'impression que T'as ce côté-là, j'allais utiliser le mot schizophrène, mais c'est peut-être pas le bon choix de terme. Mais d'un côté, donc voilà, tes pères, tu t'es converti à l'islam, t'es marié, tu fais des spectacles de stand-up souvent au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Et d'un autre côté, quand tu vois les gens qui viennent te dire bonjour ou qui te demandent un conseil ou qui te suivent, t'as encore des jeunes un peu plus street finalement qui viennent te voir. T'es un peu entre les deux encore. T'es capable de jouer sur les deux tableaux, quoi.
Entre deux, quoi, tu veux dire?
T'es entre le papa avec la vie de famille rangée qui fait ses petites blagues et le côté rappeur ou qui est encore un peu, sans dire adulé, disons apprécié par une série de fans qui aiment du rap.
Bah, c'est vrai que pour certains... Bon, moi, j'ai un grand frère, donc tu vois, j'ai toujours été le petit frère. Moi, dans le quartier, j'ai toujours été le petit, j'ai toujours été le petit, j'ai jamais eu de grand. Tu vois, j'ai toujours été le petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'à 32 ans, bah, t'as des jeunes aujourd'hui qui ont 20, 25 ans et qui écoutaient mes chansons quand ils avaient 12-13 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Qui me voyaient fatalement d'un tout autre œil. Je m'en rends compte aujourd'hui. Donc, t'as des gens qui viennent me parler, me voient avec des grands yeux. Parce que eux, quand ils avaient 12 ans, ils ont écouté ton rap, c'était des minots, ils sortaient vraiment de l'enfance. Et toi, je parlais de shit, d'alcool, je faisais mon rap de la vingtaine, tu vois. Donc, un rap un peu voyou, un peu virulent. Et eux, ça les a marqués, ça leur a plu. Et aujourd'hui, quand ils me voient en fait un peu comme le grand frère. Donc c'est vrai que j'ai, si tu veux, un peu maintenant ce rôle avec certains de grand frère et donc fatalement de moraliste, quoi, parce que le grand frère, bah, il a vécu lui-même tout un tas de couilles et aujourd'hui il a compris de par son expérience que c'est de la merde, et donc maintenant je leur fais la morale, quoi, tu vois. Je suis le père de famille.
Tu m'as déjà dit un jour que t'avais un peu de mal. Ça, c'était l'année passée, donc c'est avant que tu te mettes plus sérieusement à l'humour depuis septembre. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pensais jamais que tu allais te mettre sérieusement, parce que vu que tu es doué, t'as pas besoin de faire énormément d'efforts pour que ça passe. T'avais pas fait grands efforts, tu m'avais dit, avant de faire ton premier sketch qui avait marché correctement. Et c'est dur après de convaincre des gens comme ça de se bouger le cul, parce qu'ils ont pas besoin de le faire pour avoir du résultat. Donc, tu m'avais dit que t'avais du mal à... faire exister une image entre le rappeur et l'humoriste. Aujourd'hui, c'est plus facile pour toi? Tu t'en fous plus ou t'es toujours du mal entre les deux? Parce que tu continues de faire du rap, t'as pas arrêté l'un pour l'autre.
Mais je scinde les deux parce que j'arrive pas à mélanger les deux, tu vois. Parce qu'effectivement, bien sûr, j'ai un tiraillement. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait le tiraillement entre le premier et le second degré, quoi. C'est-à-dire que je suis un garçon qui peut être très sérieux. J'aime beaucoup la géopolitique, j'aime bien la psychologie, j'aime bien la religion. C'est des sujets qui m'intéressent, sont des sujets qui sont sérieux. Et j'ai envie d'en parler. Et en même temps, l'humour dans le rap, ça le fait pas, et donc là pour l'instant dans ce que je suis ça me convient très bien, c'est-à-dire que j'utilise plus le rap pour passer des messages un peu plus virulents, un peu plus géopolitiques, un peu plus sérieux, et dans l'humour là c'est l'occasion de se détendre et de rigoler, donc je peux
équilibre.
Exprimer si tu veux les deux parties qui font ma personne mais qui font la tienne aussi. Je veux dire, personne n'est tout le temps rigolo dans la vie de tous les jours. Des fois tu as des discussions sérieuses avec ta femme, des fois tu vas aller manger avec un pote, vous allez discuter de la Syrie ou de ce qui se passe en Afghanistan, et tu vas peut-être pas toujours trouver langue pour parler des choses un peu dramatiques et un peu dures, tu vois, dans l'humour. Donc ça me convient en fait d'avoir les deux, mais j'arrive pas à les mélanger, quoi. Je me verrais mal faire un gros sketch où tu t'arrives, tu fais marrer tout le monde, et puis après tu leur sors une chanson, tu vois, où tu leur dis un truc ultra sérieux, premier degré à mort. C'est difficile à mélanger quand même, moi je trouve.
L'islam, quelle sorte... est-ce que tu as le syndrome déjà du nouveau converti? Merci.
Non, je
dire,
pense pas.
Plus catholique que le pape, ironiquement, avec l'islam, ça marche pas, mais.
Ouais, mais. C'est une phase que j'avais, ça, dans mon spectacle. Ce sont les nouveaux musulmans qui veulent être plus catholiques que le pape. Oui. Donc là, quand même, alors ce que je disais, c'est. Donc là, quand même, ça peut causer une schizophrénie, et apparemment, chez moi, le terrain est propice, donc il faut faire attention.
Ouais, je disais ça. Donc t'avais déjà.
Mais écoute, pas tant que ça, tu vois, mais je comprends ce souci d'intégrité, parce que je te dis, dans le mot intégrisme, il y a intègre dedans. Donc les intégristes, c'est des gens qui malheureusement partent souvent d'une bonne intention, qui lisent les choses de manière littérale, tu vois, qui les interprètent à leur manière et qui vont agir, mais de manière, comment dirais-je, avec une intention d'intégrité, tu vois, de vouloir être intègre à sa religion.
L'intention n'est pas nécessairement mauvaise, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, maintenant moi ce qu'il y a, c'est que ma vision de l'islam, c'est que dans l'islam il y a 5 piliers qui sont importants, donc l'attestation que Dieu est unique et que Mohamed est un de ses messagers, la prière, c'est le deuxième pilier, le ramadan, l'aumône et si possible le pèlerinage à la Mecque. Et donc rien n'est fait par hasard dans l'islam, tout est dans l'ordre, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ça sert à rien, tu vois, de commencer à réfléchir, à te dire, ah tiens, je vais aller porter une barbe comme ça, parce que dans ma religion, il dit qu'il faut mettre une barbe, alors que tu fais pas la prière, tu vois ce que je veux dire. Oui. Concentre-toi déjà sur l'essentiel. Donc, moi, je pense que toute ma lutte, moi, quand je me suis converti, j'ai prié pendant un an et demi.
Et comment c'est arrivé?
Toutes les prières à l'heure.
Ok. Mais comment c'est arrivé déjà? T'es allé sur Google en cherchant religion, Wikipédia, choix, quoi?
Non, mais déjà, mon délire était mystique. Pendant ce délire-là, je parlais déjà beaucoup d'islam dans mon délire. Donc ça comptait déjà. Dieu avait déjà une importance. J'ai eu la chance d'avoir un ami musulman avec qui je chantais à l'époque. Il était très instruit, un garçon très instruit sur le sujet, avec qui j'ai polémiqué pendant des années autour de café, et qui a souvent eu des réponses qui m'ont paru justes, tu vois, okay. qui m'ont touché dans leur justesse, même quand j'allais chipoter sur des sujets, tu vois, un peu plus. Tu sais, on a tous des interrogations. Je comprends qu'on puisse chipoter avec la religion. Ah ouais, mais tu dis que ça, mais comment, alors comment t'expliques, tu vois? Oui. Et j'ai souvent eu, c'est comme si c'était un garçon instruit qui m'a souvent donné des réponses qui m'ont convaincu. Et donc à un moment, je me suis dit, bon ben voilà, je suis croyant. À un moment, il faut mettre en action ta reconnaissance et ta soumission, tu vois ce que je veux dire, même si les gens n'aiment pas ce mot, mais tu vois, t'en remettre, tu vois,
oui.
à lui, et le fait de l'exprimer, et
résilience,
la reconnaissance, etc., etc. Et je me suis dit, il faut le mettre en action, et l'islam est une religion qui te permet ça, c'est-à-dire que par le biais de la prière, c'est une action qui se fait au quotidien et qui te permet d'avoir un cordon, quoi, un lien entre toi et lui concret, tu vois, par le réel, comme tu disais tout à l'heure, par le corps. Et donc voilà, et de plus, la prière est calquée sur le rythme solaire, donc tu ne sais pas être plus en accord, en fait, avec la nature que quand tu pries, parce qu'elle te rappelle à chaque instant, tu vas prier juste à l'aube, tu vois, donc juste avant que le soleil se lève, donc ce qui marque le début de ta journée. Après, tu vas passer toute ta matinée à travailler. Tu vas reprier quand le soleil est au zénith, tu vois, ça va aussi t'indiquer que là, on est au top de la journée, tu vois ce que je veux dire, le soleil est en haut. Tu vas prier quand le soleil commence à descendre. Donc là, quand tu fais cette prière-là, tu te dis, bon, mais là, on commence à toucher la fin de la journée. Tu pries quand le soleil est couché, donc là, tu te dis, ok, maintenant, c'est la nuit. Et puis, tu pries une heure après pendant la nuit. Et donc, en général, si tu te dis, ben voilà, moi, ma vie, ça elle commence à l'aube. Après, je travaille, et quand le soleil se couche, je reste à la maison. J'ai rien à foutre la nuit dehors, je suis bien, ma journée elle est finie, le boulot il doit être fait, maintenant je suis là, je suis en famille, je mange avec mes gosses. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut t'apporter vraiment une réalité de la nature concrète, et moi je vais me battre là-dessus, parce que la prière tu peux lâcher très vite. Moi j'ai prié pendant un an et demi à l'heure, puis tu peux très vite lâcher, parce que tu sais, on est des hommes, tu vois, donc ça représente quand même aussi un effort. Et on est des humains, et donc il faut lutter contre soi-même, tu vois, au quotidien et pendant toute ta vie pour t'accrocher à ça. C'est très difficile, la religion, hein. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de gens qui se prétendent aussi musulmans, mais qui ne le sont pas fatalement, parce qu'ils prient pas. Tu vois, le prophète, il a dit, la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont musulmans mais qui prient pas. Et donc quelque part, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Donc par exemple, le fait où tu obéis, tu vois, au pilier de la prière, bah tu es soumis, tu viens au rendez-vous. Quand on t'appelle, tu viens au rendez-vous. Et quand tu viens pas, bah, quelque part, t'es soumis qu'à moitié. Et je blâme pas ces gens, j'en fais partie. Pour l'instant, je prie plus. Mais c'est quelque chose que j'aurai en tête à vie, tu vois, auquel je veux me raccrocher. Mais il faut que je trouve le courage de le faire concrètement, quoi, dans l'effort.
Et ça a été dur pour toi de te convertir à l'islam par rapport à la réaction que d'autres pouvaient avoir? C'est drôle, je connais juste une autre personne qui s'est convertie à l'islam de manière un peu publique, c'était Mohamed Ali, le Cassius Clay, son nom d'esclave, comme on dit.
Je connais pas cette
qui aimait se battre, c'est tout ce que je me souviens. Il s'est battu une fois au Zaïre, ça avait un peu marché, quelques personnes étaient venues.
Mais, un catcheur congolais, quoi. D'accord.
C'est un jour, tu tapes Mohamed Ali, catcheur congolais sur Google, tu tombes sur James Dean, tu tombes sur James Dino, une biographie assez étrange du boxeur. D'ailleurs, Will Smith devrait faire un deuxième film maintenant, mais avec la vraie histoire, celle du catcheur congolais. Non, je veux dire, ça n'a pas nécessairement une super image. est-ce que tu as déjà été victime de quelque chose? Est-ce que tu as déjà senti que les gens comprenaient pas, qu'il y avait une espèce d'agressivité à toi? Ou est-ce qu'on essayait au contraire de dire « Ah, maintenant tu es musulman, qu'est-ce que tu penses de tel et tel et tel truc? » Et donc d'être un peu, je veux dire, challengé par rapport à...
Mais premièrement, quand tu es musulman et que tu dis que tu es musulman, les autres, ils repèrent tous les détails. « Ah, tiens, tu fumes une cigarette? Ah, c'est pour un musulman, c'est permis. » Les gens chipotent, ils pensent que tu es musulman, ça y est, tu es devenu parfait. Tu n'es plus un homme, tu vois. Tu dois être impeccable, tu sais, les musulmans, c'est plus des humains, tu vois, c'est ça le truc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dès que je mets un truc en rapport avec l'islam sur ma page, ou dès que je place le mot islam dans un texte de rap, c'est la polémique permanente, tu vois. Ouais. Les gens sont saoulants. Ils ont un problème avec l'islam, les gens, c'est grave, tu vois.
Et tu comprends d'où vient leur problème avec l'islam?
Mais je comprends, parce que moi, je suis un occidental, tu vois, donc je comprends, c'est un problème de groupe, et le problème, c'est que tout est mélangé, c'est-à-dire que les racailles de ce pays... En général, les racailles dans un pays, c'est les pauvres, tu vois. Ici, les pauvres, c'est les Arabes, tu vois. Les Arabes, c'est les musulmans. Et donc, il y a une confusion, si tu veux, entre islam, voyous de quartier, peut-être des gens qui se sont fait agresser dans leur quartier ou qui ont eu peur.
Il y en a qui servent de l'islam comme excuse aussi.
Moi, je pense qu'il y a plus une arabophobie, en France et en Belgique, une arabophobie qu'une islamophobie. Je pense que personne est venu avec un bâton chez toi en rue pour te dire « va faire la prière », tu vois. Oui. Aucune femme dans la rue, on lui a dit « va mettre le foulard ou je te tue ». Je veux dire, il n'y a jamais un musulman qui a causé un problème. Après, tu vois... te trimballer à la guerre du midi, tu vas peut-être te faire emmerder, t'es une gonzesse dans soirée, t'as peut-être un pays, il va venir une bande de jeunes rabza, tu vois, de Molenbeek, qui va dire « Ah, mademoiselle, ah, viens », tu vois ce qu'il veut dire, qu'il va un peu... Donc, et je pense qu'en France, tu ne peux pas, en fait, avoir de propos racistes, tu ne peux pas dire « Oh, moi, j'ai peur des Arabes ou les Arabes, j'ai l'impression, ils sont un peu chiants quand même dans le ghetto, ils sont violents », tu ne peux pas dire ça en France, c'est interdit, touche pas à mon pote, il y a eu des campagnes anti-racisme, c'est le racisme, c'est interdit en France, c'est politiquement incorrect. En revanche, la laïcité, c'est tout le contraire. En France, c'est bien vu d'être laïque, tu vois. C'est « Ah, mais attention, la religion, faut pas qu'elle vienne faire la loi chez nous. Hein, nous, on est des laïcs, c'est la République, tu vois, ils sont fiers de ça. » Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont transformé leur arabophobie, leur racaillophobie, je vais leur dire même, tu vois, en islamophobie. Parce que être anti-racaille, tu peux pas. Tu peux pas l'être, parce que tu vas dire « Ah ouais, mais les Arabes, là, non, moi, je veux pas. » Tandis que dire « Ah ouais, mais les musulmans, j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire sur les musulmans, là, quand même, tu vois. » Et donc, je pense que c'est un moyen, tu vois, pour dire un mal-être qu'ils ont vis-à-vis d'une violence qu'il y a dans la rue et qui est liée souvent à une pauvreté. Tu regardes autant de Renaud, le chanteur en France, dans les années 60, t'avais pas de rabza. Où t'en avais peu, tous les délinquants, c'était les Français, les gars qui avaient pas de thunes, ils étaient là, c'est les loubards avec leur cuir, ils se pétaient la gueule toutes les semaines, c'était aussi des gens qui foutaient les boules, tu vois. Et donc, voilà, je crois qu'il y a un mélange des genres. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que comme je fréquente le rap, ben le rap, c'est aussi un milieu où il y a beaucoup d'arabes, beaucoup de noirs. Et alors, évidemment, je vais pas dire les mauvais arabes, parce que ça se dit pas, c'est une connerie et c'est une globalité, mais souvent, évidemment, les arabes plus voyous, fumeurs de shit et buveurs d'alcool que musulmans. Moi, ce que je dis toujours, moi, si je suis en train, j'habite à Place Litch, quand je rentre chez moi la nuit, le gars qui arrive avec sa djellaba et sa barbe, j'ai pas peur de lui. Il sort de la prière. Il va pas me piquer mon MP3, on est d'accord, tu vois. Le gars, il rentre chez lui, il sort de la prière, il est sorti de chez lui pour aller faire sa prière, pour prier son Seigneur. Il revient, c'est un gars, jamais t'aurais un souci avec un barbu, c'est quand même logique, tu vois. À côté de ça, quand tu vois, t'as trois rabzas avec leur veste en cuir en train de boire, tu vois, une vodka Red Bull et de fumer un boulon sur le truc, tu passes à côté, t'as peur. Tu vois, c'est normal. Mais à mon sens, ces gens-là sont pas des musulmans. Tu vois ce que je veux dire? S'ils étaient musulmans, ils seraient pas là en train de boire de l'alcool au coin de la rue. Tu vois? Donc ils le sont. Ils vont peut-être changer. C'est pour ça que moi je veux pas les juger, parce que si ça tombe, cette personne-là, c'est une personne qui a un bon cœur et qui deviendra excellente. Et si ça tombe, c'est un gars qui te fera jamais chier. Toi, tu penses, ah merde, t'as peut-être un peu peur, tu passes à côté. Alors que peut-être il te fera évidemment jamais de soucis. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une confusion, tu vois, entre l'arabe et le musulman. Et c'est pour moi deux choses différentes. Et le problème, c'est qu'effectivement, les gens connaissent plus les Arabes que les musulmans. Parce que les musulmans, c'est des gens discrets, ils font leur vie, t'entendras. Les musulmans, tu les entends pas. C'est des gens qui sont humbles, ils sont simples, ils causent de problèmes à personne. Les musulmans pratiquent, rangent pas. Et donc, et dans le rap, on utilise beaucoup de mots en arabe, comme ça. Tu vois, il y a ce côté un petit peu, tu sais, c'est bien vu. T'as même tous les noirs
en France,
ils parlent comme les arabes. Tous les blancs, ils parlent comme les arabes. Tu sais, il y a un truc comme ça. C'est un peu comme les Mexicains aux States. Tu vois, c'est un peu, ils pèsent quand même, tu vois, dans le rap game. Et donc, comme l'islam est une langue qui est descendue en arabe classique. pour ne pas que les textes soient travestis, tu vois, c'est une langue, c'est une religion qui a été conservée dans cette langue, tu vois.
Okay, donc,
c'est mieux si tu apprends l'arabe classique. Et il y a des choses qui sont en arabe.
Toi, tu l'apprends ?
Par exemple, saluer les gens, tu dois leur passer le salam, tu dois leur passer la paix, donc que la paix soit avec toi, salam alaikum, tu vois. Moi, je ne le dis pas, j'ose pas le dire. Parce que j'ai toujours ce truc que le gars, il se dit, ah ouais, non, il se donne un genre, il parle comme un arabe. Alors que je dois le dire, c'est une obligation en tant que musulman, je dois dire salam alaikum aux gens, je dois leur passer la paix de cette manière-là, tu vois. Je dois le faire. Je l'explique dans le spectacle. Un musulman ne peut pas parler du futur, proche ou lointain, sans dire si Dieu le veut, sans dire Inch'Allah, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si moi, je voulais parler avec toi, sur 15 phrases, il y a 15 Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Mais je ne le dis pas pour la même raison. Ah ouais, non, qu'est-ce qu'il a ? Il se donne un genre, tu vois, ça bloque les gens, tu vois. Donc, je ne le dis pas et en même temps, je culpabilise parce que je sais que je dois le dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai cette culpabilité vis-à-vis de Dieu à me dire, putain, des fois, je prête plus attention à la vie des autres, des hommes, tu vois, qu'à la vie de ce que Dieu me dit de faire. Donc, il y a encore là aussi un tiraillement entre la religion et c'est pour ça que je fais la différence aussi dans le sketch où elle dit, ma mère, elle me dit, comment tu vas faire pour trouver du travail maintenant que t'es devenu arabe? Je lui dis, mais moi, je suis pas devenu arabe, je suis devenu musulman. Ah oui, mais c'est pas la même chose, maman. Ben, arabe, c'est arabe, ce sont les habitants d'un pays, hein, Molenbeek, comme dirait Monsieur Renders. Puis je veux dire, musulman, c'est une religion, c'est pour tout le monde, ça veut dire soumis au Seigneur. Et ça paraît con, tu vois, mais l'info, elle passe aussi, tu vois. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop d'arabes qui m'écoutent et qui disent qu'est-ce qu'il a ce raciste. Je n'essaie que donner une tentative de philosophie. Ça reste une opinion, les opinions sont discutables.
Et, on ne t'a pas encore demandé de représenter une communauté, une explication, d'être le pont entre le bon petit belge et essayer d'expliquer justement la religion. Parce qu'en fait, tu le fais super. Je sais pas si. Moi, je suis pas donc musulman et je connais pas la religion. Donc, s'il y a de quoi, tu viens de dire que des conneries pendant 20 minutes et j'en ai pas la moindre idée. Mais je comptais énormément.
Tu vas t'en rendre compte. Tu vas t'en rendre compte bientôt.
quand tu vas faire brûler ta maison. Non, mais tu le racontes et tu l'expliques super bien. On voit que c'est un sujet qui te passionne. Si tu étais appelé de temps en temps à essayer justement un peu de faire cette espèce d'enseignement-là ou d'explication-là, c'est un rôle que tu prendrais ou au contraire, tu n'as plus envie de te placer dans un rôle de représentant, entre autres par rapport au fait d'avoir été un moment donné, sans le vouloir, représentant du rap belge en France, par exemple?
C'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai fait une interview dans le Ciné de Revue de cette semaine. Tu peux aller la voir.
Ah oui, cool.
Où ils font tout un article, tu vois, sur les stars qui se convertissent à l'islam, tu vois, Janet Jackson, Diams, tu sais, il y a eu
James Dino.
Et James Dino, ça m'a fait plaisir. ça me fait plaisir, ça, c'est bien.
Islam, je savais, star, c'est chouette.
Et le titre, c'est pourquoi se convertissent-ils tous, tu vois, c'est vraiment avec le scandale vis-à-vis de Diams, tu vois. Et donc, ils m'ont interviewé, j'ai accepté. J'ai dit, ouais, bah écoute, je veux bien le faire, tu vois, bon, même si je sais que les gens, ça les fait chier, parce qu'ils ont toujours l'impression que tu fais du prosélytisme, j'ai dit, écoute, je veux bien. Aujourd'hui, t'as une meuf de Sud Presse, elle m'envoie un mail, ah oui, bonjour, je fais un article dans tel journal. Sur les gens qui se convertissent à l'islam. J'ai dit, écoute, ça m'intéresse plus. Je vais pas m'éterniser. Je veux dire, moi, pour mon boulot, on m'appelle pas. Je fais des vidéos toutes les semaines. Je fais du one-man show. Jamais on m'appelle pour me faire une interview. Il faut arrêter de venir me casser les couilles avec ça, tu vois. Dès que c'est vos papiers un peu à scandale, l'islam, parce que tu sais que ça va faire vendre du papier, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est toujours, globalement, toujours pour, tu vois, de nouveau frapper sur le musulman. Tu regardes toutes les couvertures de télé moustique, tu sens cette haine anti-islam, tu la sens, tu vois, c'est que ça. Tu regardes sur le net, il y a un truc où tu prends 8 couvertures de télé moustique, tu regardes tous les titres, tu pètes de rire, tu vois, mais c'est de l'incitation à la haine, tu vois ce que je veux dire, on peut le dire comme ça. Donc là, maintenant, c'est bon, j'ai dit, écoute, moi, je suis pas le représentant des musulmans en Belgique, j'ai dit, moi, c'est fini, faut arrêter.
C'est un peu comme quelqu'un qui fait son coming out une fois, puis qu'après ça, a envie d'en revenir et de ne pas être le représentant d'une communauté gay pour autant.
Voilà,
tu le racontes une fois, tu le dis, tu le caches pas, mais tu n'as pas envie d'être que ce soit ton identité permanente.
J'ai pas envie qu'eux me cassent les couilles avec ça, tu vois, et qu'ils me saoulent avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'en parler dans mes spectacles. Ce qui m'intéresse, c'est de donner des infos aux gens, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui ne connaissent que l'islam d'un certain point de vue, ça m'intéresse qu'ils aient des informations sur cette religion, parce que ces informations, s'ils ne les ont pas, ils vont rester bloqués dans une mauvaise vision de la chose, et quand ils ont ces informations, ben ça les ramène à eux aussi, parce que c'est une religion, les religions c'est toujours pour les humains, tu vois, ça ne parle que de valeurs. Donc même celui qui a envie de philosopher sur la vie, qui a envie de réfléchir sur la psychologie, sur les humains, sur les rapports entre nous, ça l'intéresse, tu vois, et je pense qu'il y a tout un tas d'informations que les gens ont besoin de savoir sur l'islam, ça les rapprocherait premièrement de l'islam, ça leur donnerait des arguments justement sur les mauvais comportements, de dire attends, toi t'es musulman, tu te comportes qui tu me parles toi,
ouais.
Tu devrais avoir honte, ton père il a honte de toi, tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Ça leur donnerait des arguments aussi pour recadrer les gens, c'est un peu une force que j'ai aujourd'hui aussi, je peux me permettre de dire plus de choses parce que je sais à quoi je dois toucher et je sais à quoi je dois pas toucher, je peux toucher aux hommes, tu vois, au comportement des hommes et tout, donc ça m'intéresse que les gens aient des infos. Après il y a tu sais, le faux témoignage en islam, c'est gros péché, tu vois. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire de mensonges, tu ne peux dire que les choses que tu as vérifiées toi-même, tu vois. Donc,
okay.
Donc, il faut être prudent, tu vois, dans ce que tu vas enseigner. Tu peux donner ton opinion, mais ton opinion doit. Il faut bien qu'on comprenne que c'est ton opinion et ça doit débouler, tu vois, d'une. Tu vois, c'est quelque chose, il faut. Faux témoignage, tu vois, mauvais témoignage, donc parler de ce qu'on connaît pas, c'est mal vu. Donc je fais attention, je reste quand même prudent, c'est pour ça que je ne parle souvent que des hommes et de mon opinion vis-à-vis des hommes, autant les occidentaux qui ne sont pas musulmans que les musulmans, ça me permet d'être un trait d'union.
On revient à l'humilité encore une fois.
Entre les deux, quoi.
Mais bon, prétendre savoir tout,
ce serait peut-être un boulot de journaliste, tu vois, un peu. De donner des infos aux gens qui moi m'ont touché en fait, tu vois, que le fait d'avoir ces infos, ça a apaisé aussi mon ouais, mais tu vois,
ouais.
Des choses qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont permis de réfléchir. Et d'ailleurs, si un jour je vais faire un spectacle sur l'islam, je crois que je ferai tout un spectacle où je ne prononcerai pas une fois le mot religion, le mot islam, tu vois, et que ce serait un spectacle qui ne
que de valeurs
dédié qu'à des valeurs humaines, sur lequel on rirait vraiment que des valeurs humaines. Et quand on poserait la question en interview, on me dirait mais ton spectacle c'est génial, ça parle de plein de choses, c'est très humain, d'où viennent tes inspirations, et dire écoute, c'est simple, moi tout est parti de l'islam, j'ai ouvert les livres, j'ai étudié ma religion,
ouais.
J'en ai
ça serait entre guillemets une bonne
trucs.
Pub quoi.
Ouais, j'en ai retiré toutes les informations qui m'ont touché, tous les sujets dont je parle sont issus de l'islam. Et ça, c'est la meilleure réponse que tu puisses faire. Et puis après, va vérifier. Tu vois, tu fais ta recherche si tu as envie. Mais je veux dire, en une phrase, ton spectacle, il est. Tu en as fait sa promo, quoi.
C'est fou parce qu'il me restait deux questions.
Ouais.
La première, c'était qu'est-ce que tu aimerais faire ensuite dans l'humour? Et ben, tu viens d'y répondre.
Ouais.
J'imagine que c'est un vrai projet qui tient à cœur. La façon dont t'en parles, j'ai aucune difficulté à imaginer que tu vas être capable de travailler sérieusement puis arriver à quelque chose de bien avec ça.
Je souhaite que tu m'encourages parce que là, c'est. On va dire que c'est le petit bémol, le travail et moi, c'est encore deux choses qui vont pas.
il te reste de ton passé.
Rappelle-le-moi à chaque fois que tu me le vois. N'oublie pas ce que t'as dit. C'est une idée géniale. Fais-le.
Mais surtout qu'en humour, c'est
pas
compliqué.
Ça me permettrait d'étudier ma religion aussi, ce qui est génial. C'est, tu fais d'une pierre deux coups aussi.
Pour moi, les moyens humoristes sont ceux qui n'ont pas la capacité de jeter leur matériel. Mais si écrire des blagues, c'est en écrire 100 et puis espérer avoir la lucidité de garder que les deux bonnes, quoi. Si tu fais ça, tout le monde est capable d'être drôle. Il y en a que c'est une blague sur 10, il y en a d'autres c'est une blague sur 1000, mais si tu as la patience d'écrire assez, tout le monde est capable d'être un minimum drôle, quoi. Donc si tu travailles, bah ouais, tu vas y arriver.
Et c'est libérateur aussi, juste une petite parenthèse, c'est libérateur de savoir que sur une heure que tu vas pondre, pendant une heure, tu vas jeter des idées, c'est libérateur, je trouve, de savoir que sur l'heure où tu vas travailler, sur les 4 pages que tu vas fournir, tu vas en peut-être garder que 3 lignes.
Oui.
C'est-à-dire que tu dis, bon, ben, de toute façon, je vais quand même le jeter, donc je vais pas me limiter, tout ce qui vient, je le note.
Ouais, de toute façon, et c'est pour être faire voilà. Produire du
t'es plus en train de dire merde putain je trouve pas de vanne non tu jettes en sachant oui. Qu'il y en aura peut-être qu'une.
Donc tu fais des freestyles une fois par semaine qui sortent sur YouTube le lundi, on peut les trouver, on cherche James Inno officiel sur Facebook.
James Inno officiel sur Facebook, ouais, sur ma page fan, ça m'intéresse que les gens viennent parce que j'essaie de vraiment faire augmenter ma fanbase.
Tes stats,
non, on commence à bien monter là, on a 8700, ça paraît rien mais on l'a construit de nous-mêmes, elle a un an et demi cette page.
Donc
content.
Ça veut dire que si tu mets le podcast après sur la page, il y a 8700 personnes qui ont le potentiel.
Ouais, il y a beaucoup d'arabes aussi.
Ouais, mais c'est gratuit.
Non, mais c'est pas ça. C'est après toutes les saloperies que je viens de dire, je ne voudrais pas qu'on m'incendie ma page.
Non, mais ils vont se l'échanger, c'est très bien pour moi. Je sais pas si c'est bien pour toi, mais c'est. Non, blague à part. Maintenant, tu les vends aussi sur iTunes. On peut avoir par mois, tu mets les 4 ou 5 freestyles, dépendamment des mois, tu les mets sur iTunes.
Ouais, je fais ça à des prix imbattables.
Combien?
C'est-à-dire que je fais 4 freestyles par mois que je donne en vidéo. Je mets une exclue en plus et je fais les 5 freestyles pour 1,99€.
Et tu peux voir tes stats en temps réel sur iTunes?
Ouais.
Et ça commence à décoller. T'as commencé quand?
Écoute, j'ai commencé à les mettre sur iTunes au début du mois de septembre. Donc fin du mois de septembre, j'ai mis les freestyles de septembre. Là, j'en ai vendu 160.
C'est bien pour un truc qui est disponible en soi.
Mais bon, j'en ai vendu 160, mais j'en ai vendu 160 de putain de boucher aussi. J'en ai vendu 100, 115 de squatter les terrasses en single. Là maintenant, le freestyle d'octobre, il est arrivé. Il est là depuis le 15. Voilà, j'ai vendu plus de 50. Donc petit à petit, tu vois, je veux dire ça. C'est vrai que les ventes, si tu veux, par iTunes, ça me rapporte pas de thunes. Ça me donne un peu de thunes pour payer le studio. Ouais. Ce qui me rapporte vraiment de l'argent, c'est
les concerts qui viennent après.
C'est les concerts, mais je te dis, ça me convient. La façon dont je bosse aujourd'hui, ça me rapporte beaucoup moins, mais j'ai beaucoup moins de pression. Je suis beaucoup plus entrepreneur, donc il y a beaucoup plus de volonté. Ça se ressent dans mon tempérament, ça se ressent dans mon comportement. Je suis dans un truc beaucoup plus soft, mais beaucoup plus juste aussi, beaucoup plus tiède. Tu vois, qui me convient très bien. On n'est pas passé le leader du rap belge où tu dois aller en France, dois te cartonner, bazar. Je suis dans un autre rapport de pression et ça
plus heureux.
Ça me convient bien et en même temps je vis de ça convenablement.
Parfait. Ben, James Dino, merci beaucoup. Il y a peut-être un dernier truc de promo que tu veux dire, un site, quelque chose à donner?
Non, pas spécialement. Ma page James Dino officiel, c'est important. Il faut que les gens viennent là-dessus parce que là c'est là-dessus que je mets un peu toutes les infos qui me concernent. Et donc voilà. Et puis ceux qui ont une carte de crédit et qui sont sur iTunes, qu'ils aillent chercher mon matériel, que tu ne peux pas le trouver moins cher. C'est impossible.
Parfait. Merci beaucoup, James Dino. À une prochaine.
Ciao.